Donc le grand soir, qu'est-ce que c'est? Alors l'idée, le point de départ de la recherche, c'était de se dire que le grand soir était une image pour certains familière, peut-être pas pour tout le monde. Donc une sorte d'évidence que l'on n'avait pas encore interrogée. Et comme en histoire, on aime bien interroger les évidences, bah, j'ai cherché à savoir qui employait l'expression, quand est-ce qu'elle apparaissait, quel scénario, quel motif. On pouvait renfermer cette image et quels espoirs, quelles craintes pouvaient y être associées. Alors, dans un premier temps, je vais juste faire un petit rappel de la notion d'imaginaire social. Donc, en histoire et plus généralement en sciences sociales, on parle d'imaginaire comme un ensemble de représentations ou de significations qui sont propres un groupe social, donc ça va être des utopies, des mythes, des croyances cosmiques ou religieuses, et qui l'historien va essayer de repérer comment ces représentations symboliques vont pouvoir avoir une influence sur les pratiques sociales. Donc voilà pour le petit point, on va dire technique, sachant que ça s'accompagne de l'idée que l'imaginaire du grand soir que je vais vous présenter, toute la vision du changement social qu'il contient n'est pas évidemment une vision normative et qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Donc, ce travail pour quelle source employer? Donc, rapidement, tout d'abord, bien sûr, c'est devenu une évidence ensuite, la presse révolutionnaire, donc à la fin du 19e siècle. Les bornes de mon étude, c'est de 1880 à la veille de la Première Guerre mondiale. 1880 parce qu'on est 10 ans après la Commune, on est au moment juste après l'amnistie. Et alors que le mouvement ouvrier avait été assez décimé donc, au moment de la Commune, reprend des forces, notamment sur le plan syndical. Et 1914, parce que bon, déjà il faut bien trouver une fin, et puis parce qu'on considère quand même que pour tout un tas de raisons, la Première Guerre mondiale marque un tournant. J'y reviendrai. Donc la presse anarchiste, donc, comme La Révolte ou Les Temps Nouveaux, qui sont des journaux assez connus à l'époque et qu'on pourrait qualifier qui ont un rayonnement national. Le Libertaire, dont là on a un almanach qui chaque année. Publie l'almanach de la Révolution. Pareil pour Le Perpénard, qui est une publication qui commence en 1889 et qui, pendant quelques années, a fait un almanach, a fait des almanachs, pardon. La presse syndicaliste révolutionnaire également. La Voix du Peuple, qui est à compter de 1901 l'organe officiel de la Confédération générale du travail, donc la CGT, qui est créée en 1895. Et trois autres exemples, comme l'Action syndicale ou le Réveil artésien et le Grand Soir, qui sont eux des journaux locaux qu'on qualifierait de concentration révolutionnaire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas proprement anarchistes, parce qu'il y a des socialistes révolutionnaires, des syndicalistes, plusieurs courants, ça rassemble plusieurs courants. Et donc, ça, ce sont des journaux du bassin minier. Et. Par exemple, pour le Réveil artésien, je m'y suis intéressée parce qu'il commence à apparaître en 1911, en 1910, pardon, et en fait l'année d'après, jusqu'en 1914, il s'appelle Le Grand Soir. Donc, quand on s'intéresse au Grand Soir, un journal qui a ce titre, c'était tout trouvé. Et par ailleurs, donc les penseurs anarchistes ont été quand même assez prolifiques pendant toute cette période. Donc là, j'ai mis un exemple de brochure de Pierre Kropotkine. Et un autre média très important pour l'époque, ce sont aussi les chansons, car on est dans une situation un petit peu paradoxale à la fin du 19e siècle, pardon. C'est-à-dire qu'à la fois le pays, enfin la France est en voie d'alphabétisation et la lecture du journal devient une sorte de réflexe social. Il y a énormément de journaux, ceux qu'on appelle par exemple les quatre grands, le petit journal, Le Petit Parisien, Le Matin, et j'en oublie un, tire à des centaines de milliers d'exemplaires. Donc voilà, on lit beaucoup et en même temps, Il y a aussi, surtout dans la classe ouvrière, il y a énormément de gens qui ne savent pas encore lire, voire même qui ne parlent pas forcément français. Pour autant, au café, dans les lieux de sociabilité, on lit, on fait la lecture aux autres et on chante. On chante beaucoup, on chante au café, mais on chante aussi lors des grèves. Et voilà, donc les chansons, en particulier les chansons anarchistes, ont fait l'objet d'une étude par un historien que je cite dans le livre qui s'appelle Gaetano Manfredonia et qui décrit bien comment c'est un vecteur à la fois justement pour construire un imaginaire anarchiste, comment on se représente très souvent, j'y reviendrai, victorieux et conquérant, et en même temps un moyen très pratique de diffusion des idées. Et enfin, des récits, comme par exemple ceux d'Henri Poulaille en littérature prolétarienne, ou aussi des mémoires, avec toute la part critique que ça peut comporter, puisque on a toujours tendance, quand on écrit ses mémoires, à peut-être réécrire un peu l'histoire, ou en tout cas en avoir une vision déformée 10, 20 ou 30 ans après. Et enfin, pour un autre support, les autres supports, donc beaucoup de dessins, de caricatures, de gravures, soit qui sont parus dans la presse, soit sur des affiches ou des feuilles volantes. Et pour le lien avec le dernier point, que j'ai beaucoup trouvé dans les archives du ministère de l'Intérieur ou de la préfecture de police de Paris, où on trouve aussi bien évidemment enfin, les policiers, les mouchards et les agents qui pouvaient suivre les anarchistes dans ce qu'on appelait à l'époque les menées anarchistes, ont fait un travail formidable pour l'historien, puisque il y a nombre de brochures et de journaux découpés, et bien sûr les activités qui sont rapportées avec une grande minutie. Donc voilà, là aussi il faut bien sûr des fois essayer de distinguer le vrai du faux, mais voilà. Donc la naissance d'un imaginaire. Donc j'ai sous-titré ça le moment libertaire du mouvement ouvrier français. À la lecture de ces sources que je viens de vous exposer, il apparaît donc très rapidement que le grand soir, c'est la métaphore de la fin du vieux monde, ce qu'ils appellent le vieux monde, c'est la fin du vieux monde par la révolution sociale, le soir de la destruction de la société bourgeoise et capitaliste. On peut y mettre tous les adjectifs que l'on voudra. Et cette image de grand soir, cette expression, elle traduit une vision insurrectionnelle du changement social. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui ressort assez étonnamment, c'est qu'on a l'impression qu'on est toujours voilà, à la veille du grand soir. Si la révolution n'a pas lieu demain, et ben, au pire, ce sera après-demain. Et en cela, l'imaginaire du grand soir est un imaginaire propre au XIXe siècle. D'une part, parce que les hommes et les femmes du XIXe siècle croient avec intensité en la force et la vérité des mots. Il faut que les mots deviennent vrais. Et par ailleurs, ils croient aussi, et à plus forte raison chez les révolutionnaires et les anarchistes, en l'avènement inéluctable et à court terme d'un monde meilleur, et qui serait donc régénéré et purifié grâce à la révolution sociale. Donc pour la révolution, quand on lit les textes, la révolution à venir, elle semble donc toujours à peu près imminente. Alors je vais vous faire écouter un tout petit extrait d'une chanson assez connue à l'époque de Paul Payet, qui s'appelle Heureux temps. Donc cette croyance qu'on pourrait qualifier de millénariste en fait, en la venue très prochaine de la révolution sociale, fait que la grande majorité des activités anarchistes sont orientées en vue du déclenchement de la révolution, et que les anarchistes aussi accordent parfois jusqu'à l'aveuglement, une tendance spontanée révolutionnaire aux masses. Et cette idée d'une révolution aussi imminente, elle s'accompagne d'une idée d'une révolution qui serait à la fois inéluctable, inévitable et nécessaire, Pourquoi? Donc là, il faut se replonger un petit peu dans le 19e siècle. D'une part, parce que si 1789, la Révolution française a apporté la liberté politique, l'égalité et la fraternité ne sont toujours pas au rendez-vous. Et surtout, les révolutions, enfin les journées révolutionnaires de 1848 et la Commune ont été réprimées dans le sang. Ce qui fait que à la fin du 19e siècle, quand on prend en compte cet héritage révolutionnaire, il y a l'idée que la fraternité entre les classes n'est plus possible. Il y a une vraie radicalisation du mouvement révolutionnaire sur la fin du 19e siècle, qui fait que on a l'idée que la révolution sera nécessairement violente. Et par ailleurs, cette idée s'accompagne aussi, et tombe parfaitement avec l'idée de fin de siècle. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà pareil entendu parler de cette expression. Donc, à la fin du 19e siècle, toutes sortes de le 20e siècle approchant, ça nourrit les plus folles suppositions, et les révolutionnaires sont assez enchantés d'un certain esprit décadent qui se profile comme ça, surtout dans la classe bourgeoise, même si ça relève d'un épiphénomène. Et eux se disent, eh bien, face à cette société qui est malade de ces injustices, profitons-en pour précipiter la révolution. Et donc là, c'est un extrait d'un agent de la préfecture de police de Paris. Donc je pense que, je ne sais pas si vous pouvez très bien lire, mais il écrit « Beaucoup de compagnons pensent qu'il va surgir une période favorable à l'action révolutionnaire avant la fin de l'année. » Et donc là, c'est en 1902, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Enfin, pendant, comme ça, une période de 15-20 ans avant la Première Guerre mondiale, on a toujours, soit que ce soit affirmé de la part dans les écrits révolutionnaires, et on le retrouve aussi donc chez les agents de police, cette idée qu'on est toujours sur le qui-vive et à la veille d'une révolution. Et pour terminer donc ce chapitre, une gravure donc d'Adolphe Villette, qui est un personnage assez complexe, puisqu'il ira de tout à gauche jusqu'à tout à droite, mais qui dans les années 1890 produit énormément de dessins et de gravures pour la presse anarchiste en particulier. Et on remarque avant le XXe siècle, avant que le mouvement ouvrier prenne quand même plus de force, le prolétaire, l'ouvrier ou le paysan est souvent représenté comme étant totalement accablé. On fait ressortir la condition de misère qu'est la condition ouvrière. Et donc le titre « Démolir la Bastille et aboutir à fourmis » rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire oui, il y a eu la Révolution française, mais finalement, elle n'a profité qu'à une seule classe. Et la classe prolétaire qui est née de l'industrialisation et dont la conscience de classe aussi se forge petit à petit, elle ne profite toujours, n'est toujours pas invitée au banquet. Et fourmis, donc je ne sais pas si ça vous parle, c'est en 1891, à l'occasion de la deuxième célébration du 1er mai, où l'armée tirera sur la foule et il y aura des morts. Donc voilà, pour résumer un petit peu l'une des représentations que l'on se fait à l'époque. Et donc pour l'expression du grand soir en elle-même, l'une des ironies que l'histoire réserve parfois, c'est que la première fois que l'expression grand soir est employée dans un sens politique et en lien avec des bouleversements sociaux, c'est en 1882, par un chroniqueur judiciaire du Figaro, donc plutôt hostile aux anarchistes et au grand soir, qui rapporte le procès de ceux qu'on a appelés la bande noire, donc des ouvriers de Montceau-les-Mines qui se réunissaient clandestinement la nuit pour et qui attaquait soit les symboles religieux, soit les symboles patronaux locaux. Et donc il passe en procès, et en fait, Albert Bataille retranscrit le procès, et alors que le juge demande à l'accusé qu'est-ce que vous aviez prévu pour le grand jour, lui il écrit grand soir, en fait il travestit les débats, et il met derrière cette idée de grand soir un possible complot anarchiste ou pas international, enfin. Voilà, il met beaucoup de choses derrière, et en tout cas, il reprendra l'expression pendant une dizaine d'années à chaque fois qu'il rapportera un procès anarchiste. Toujours est-il que dans un sens, on va dire, plus positif, si tant est que l'image de destruction puisse être positive, c'est donc dans ce numéro de La Plume, qui est une revue, donc, comme l'indique son sous-titre, littéraire, artistique et sociale, qui n'est pas une revue à strictement parler anarchiste, mais qui, à l'occasion du 1er mai 1893, consacre un numéro spécial à l'anarchie, où dans ce poème de Jean Carrère qui s'appelle Chant lyrique pour le monde à venir, il est question tout en haut là, du grand soir. Et donc, dans ce poème, en fait, la fin de la société est assimilée à la fin d'un jour. La destruction a lieu le soir, et son rêve monte, jaillit, grandit, comme il le dit, éclot mon œuvre. Et après le grand soir, vient le matin, vient à la fin, comme il le dit, la joie et l'harmonie, en un mot, l'aube de l'anarchie. Donc, les différentes représentations du grand soir traduisent, donc, comme je vous dis, une vision tout à fait insurrectionnelle et catastrophiste du changement social. Je parlais tout à l'heure d'idées de décadence. Très souvent, la société telle qu'elle est à ce moment-là est décrite dans les textes comme à l'agonie, en proie à l'effondrement. Enfin, il y a toujours une idée de cataclysme, ou beaucoup de métaphores d'éléments naturels, d'images apocalyptiques, et d'une société qui est comparée à un corps qui est malade et qui va mourir, et encore une fois, dont il ne suffirait finalement que d'un coup de boutoir pour en venir à bout. Donc là, c'est pour illustrer ce que je viens de vous dire, un deuxième petit extrait de chanson qui, celui-là, vous êtes peut-être plus familier, qui s'appelle Le Triomphe de l'Anarchie, qui est une chanson donc, du tout début du XXe siècle, et qui a été interprétée aussi par les Quatre Barbus dont j'ai passé un extrait tout à l'heure, et par Marc Augeret. Je pourrais la remettre en entier à la fin si vous voulez. Donc, dans les écrits, dans les chansons, ou même dans les images, il y a souvent une forte connotation qu'on pourrait qualifier encore une fois de messianique. Alors, ce qui est assez surprenant, surtout chez des anarchistes, cette influence du langage religieux. On peut l'expliquer de deux façons. D'une part, parce que l'héritage chrétien pèse quand même encore très lourd à cette époque-là. Et aussi, puisque les images à la fois bibliques et ou romantiques ont un effet, parlent au plus grand nombre. Donc finalement, elles sont réutilisées, elles sont détournées. Et comme dans cette image, en fait, dans les textes, on reprend les mêmes images qu'on peut avoir dans la Bible, mais par exemple, ce n'est plus bien sûr la justice divine, mais la justice populaire qui est métaphorisée. Par exemple, là, ce vieillard qui balaie, dont on attend le grand coup de balai pour à la fois la magistrature, l'armée, le prêtre, le capital. Voilà. Donc, c'est souvent soit par des images d'ouragan, de tempête, donc encore une fois d'apocalypse, que le peuple, et la violence du peuple est métaphorisée. On retrouve aussi, comme dans cette gravure de Gene Viala, la ville qui est le lieu, comment dire, le lieu, enfin, une sorte de bagne, enfin d'image de ville étouffante au bord de l'effondrement, encore une fois. Et qui est, le titre parle de lui-même, le grand soir ou Babylone. Pour finir aussi sur les représentations, vous l'aurez donc remarqué, on parle du grand soir, donc on est passé du jour au soir. Autant, par exemple, à l'occasion de la Révolution française, on employait très souvent l'expression grand jour, où le côté justement lumineux servait à signifier l'éveil du peuple, de la nation, l'entrée en politique, etc. Là, on est dans un imaginaire qui est beaucoup plus diurne, beaucoup plus nocturne, pardon, et beaucoup plus noir. Une fois qu'on a un peu listé les différentes représentations et les thèmes qui composent cet imaginaire, on peut s'interroger sur pourquoi cette expression et quel est son but. Outre donc la chanson, la littérature a produit un grand nombre de représentations du Grand Soir, et notamment dans les années, vraiment au tournant du 19e, 20e siècle, dans les années 1899-1900, il y a un genre qui est très en vogue, un genre littéraire qui est très en vogue dans la presse anarchiste, le genre de la nouvelle et plus particulièrement le genre du rêve. Et je vais vous en lire un tout petit extrait. Le texte s'appelle Le rêve, où l'auteur imagine l'embrasement de la société en un seul soir. Les hommes, las d'être restés agenouillés pendant des siècles et des siècles, las d'avoir courbé la tête sous le joug, là de passer sans cesse sous les fourches caudines du capital, ont enfin relevé la tête. La lumière, tout à coup, les a aveuglés. Ils ont vu clair. Le réveil a été terrible. Ils se sont rués sur les puissances d'oppression. Partout, ils ont promené la torche purificatrice, et maintenant, le vent souffle en tempête et tout flambe. Les usines, où tant d'esclaves laissèrent leur peau, les casernes, où tant de pauvres enfants laissèrent leur cœur, les églises, où tant d'humiliés laissèrent leur cerveau, et les banques, les panais et les loupanards, tout flambe. Et, mêlé au crépitement de l'incendie, on entend le craquement sinistre des édifices qui s'écroulent. Pourtant, les flammes diminuent, tout bruit s'éteint. On ne voit plus que quelques flamèches qui, de temps à autre, surgissent d'un brasier qui se ranime au souffle des vents, et la lueur qui, tout à l'heure, rougeoyait le ciel, a disparu peu à peu. Maintenant, il fait nuit sur les villes. Tout est mort, tout est calme. Petit à petit, la lumière apparaît. Ce n'est d'abord que la pénombre. L'éclaircie augmente. Et du charnier, on voit s'élever lentement, robuste et saine, radieuse, la liberté, tenant en main le flambeau de vérité qui éclairera les mondes. Donc ce genre de texte, comme je disais, qu'on retrouve à de nombreuses reprises, on peut s'interroger sur la fonction qu'ils peuvent avoir sur le lecteur. Ils permettent à la fois de faire une critique. Ça peut être la critique de l'attentisme du peuple, ça peut être la critique de la société, donc en tout cas de dresser un tableau social. Et ça permet aussi de se représenter la Révolution, le soir de la Révolution. Puisqu'on peut partir du principe que pour penser la révolution possible, pour penser la transformation et l'émancipation, il faut avant tout y réfléchir pour qu'elle soit possible. Et donc, la littérature, mais aussi les autres arts, ont cette fonction d'ouvrir des brèches, de faire jaillir des étincelles pour... enclencher en fait la démarche révolutionnaire. Donc là, c'est un petit tableau un tableau de Paul Signac que vous connaissez sûrement, le peintre, que j'ai juste mis là pour montrer parce qu'il est représentatif Donc il produit cette œuvre en 1893-95, à un moment où beaucoup d'artistes, j'ai envie de dire de tous bords politiques, sont attirés par l'anarchie. L'avant-garde, voilà, l'avant-garde artistique est très proche des milieux anarchistes et vice-versa. Et autant, une fois que la répression s'abattra sur le mouvement anarchiste, certains le quitteront, mais enfin, bref, d'autres resteront. Tout ça pour dire que, y a une grande réflexion sur l'art, la littérature, et sur la façon justement de penser l'émancipation et de ne pas uniquement avoir une représentation malheureuse de la situation actuelle. Et pour terminer sur ce point, donc voici un poème donc de Manuel de Valdès, un anarchiste individualiste qui a été assez connu ensuite puisqu'il fera partie il sera l'un des premiers objecteurs de conscience au moment de la Première Guerre mondiale. Et donc ce texte qui est publié pour la première fois en 1904 et que moi j'ai trouvé dans une anthologie des écrivains réfractaires de la langue française. Il est assez symptomatique et résume bien ce que j'ai tenté de vous démontrer juste avant, puisque il commence par faire un constat quand même assez sombre. Il dit: « Mais dites, quel jour accoucherez-vous du grand soir, le grand soir, soir libertaire, soir de justice? » Et après, il s'interroge, il dit: « Nous l'avons rêvé. Quand viendra-t-il? C'est pour l'an nouveau, le mois qui vient, la semaine prochaine, c'est pour demain, c'est pour ce jour, c'est pour ce soir. Et camarade au désir libertaire, le grand soir, il ne faut pas le rêver, mais bien le vouloir. Le grand soir, au lieu de l'attendre, il faut le faire. Le grand soir, soir de justice, soir libertaire. » Donc il finit par un appel à l'action. Et donc il y a à la fois dans son texte une recherche esthétique et un engagement militant. Donc pour rentrer dans quelque chose d'un peu plus, on va dire, concret, c'est grâce, enfin, ou c'est avec le développement du syndicalisme révolutionnaire dans la dernière décennie du 19e siècle que justement le grand soir va s'ancrer dans la réalité des luttes. Donc pour faire un rapide résumé, ce qu'on a appelé la période des attentats de la propagande par le fait, dans les années 1892-94, elle est clos, on va dire, par ce que les socialistes de l'époque ont appelé les lois scélérates, qui ont eu pour effet d'interdire tout, pas uniquement, mais en tout cas d'interdire tous les journaux anarchistes. Ce qui fait que le mouvement anarchiste, qui était déjà non pas constitué en organisation, qui était une sorte de nébuleuse de plein de petits groupes, s'est trouvé en difficulté. Et d'autant plus que les attentats avaient détourné. Enfin, alors que l'attentat devait montrer le chemin et encore une fois essayer de réveiller les consciences, on pensait que finalement les attentats avaient desservi la cause anarchiste. Et donc de nombreuses personnalités, on va dire, donc comme par exemple Émile Pouget ou Pierre Kropotkine, Malatesta, etc., avant même la fin des bombes, disent il faut être au cœur des luttes, il faut être au cœur du prolétariat et il faut s'engager notamment dans la voie syndicale. Donc il y a un homme qui a beaucoup compté pour l'histoire du mouvement syndical français. Dès la fin des années 1880, c'est Fernand Peloutier qui sera l'un des instigateurs de la Fédération des Bourses du Travail. Donc c'est à ce moment-là vraiment qu'il y a une multiplication sur le territoire des Bourses du Travail, qu'on appelle aussi Maison du Peuple. Et donc les anarchistes, en fait, voient... c'est un peu, on va dire, un coup double pour eux, puisque ça permet à la fois... de rentrer dans les syndicats, ça leur permet à la fois au mouvement anarchiste de renaître un peu de ses cendres et d'espérer en tout cas d'orienter le mouvement ouvrier vers la voie révolutionnaire. Si bien que les fédérations de syndicats existent déjà, Mais c'est en 1895 que la Confédération générale du travail, donc la CGT, à Limoges est créée. Et en 1902 que elle s'unifie avec donc la Fédération des bourses du travail. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on trouvera à la tête de la CGT des militants qui, pour une grande partie, viennent du mouvement anarchiste ou blanquistes, ou en tout cas, il y a à la tête de la CGT des hommes qui s'affirment révolutionnaires. Et notamment Émile Pouget, dont je vous parlais tout à l'heure, pardon, qui était le rédacteur du Père Peinard et qui sera à la fois secrétaire adjoint, mais surtout qui sera l'un des principaux, voire même l'unique rédacteur du journal confédéral La Voix du Peuple. Et donc, alors que la grève, la pratique de la grève était plutôt mal vue, puisque ça se traduisait souvent comme une double peine pour les travailleurs, puisque bien souvent, à la fin d'une grève, ils n'avaient bien sûr pas été payés et ils n'obtenaient pas gain de cause. Avec donc comment dire, non pas cette situation révolutionnaire, mais cette ferveur quand même, cette conscience de classe qui se cristallise et le fait quand même qu'on croit en ses forces et qu'on commence à s'unir dans les syndicats, etc. Bien souvent, l'idée même de la grève et bien sûr sa pratique est réhabilitée. Et c'est dans les mêmes temps, donc dans les années 1893-94, que l'idée de grève générale renaît. Et discutée et approuvée dans les congrès, que ce soit politiques ou syndicaux. Je dis renaît puisque elle est déjà assez vieille et elle avait notamment été envisagée par la Première Internationale, par exemple, pour faire face à la guerre, mais on l'avait un petit peu laissée de côté. Et voilà. Donc là, enfin, c'est un exemple d'un journal que j'ai pas mal utilisé, qui reviendra ensuite, donc l'Assiette au beurre. Qui avait pour principe de chaque numéro faisait 16 pages et qui donne enfin un dessinateur était responsable d'un numéro et cette image de 1905 est assez connue. Oui, donc je parlais tout à l'heure d'un mythe actif. Pourquoi? Parce que donc c'est effectivement enfin les mouvements de grève se multiplient. Alors bon, comme vous connaissez déjà la fin de l'histoire, la grève générale n'aura pas lieu, mais de la fin du 19e jusqu'à... Enfin, on a une période d'à peu près 10 ans qui est quand même d'une intensité sociale assez remarquable avec de nombreux faits de grève. Et l'idée de Grand Soir, le mythe du Grand Soir, encore une fois, va trouver en fait à s'incarner avec cette idée de grève générale. Et alors, la qualité est assez mauvaise, mais cette chanson, donc La Grève Générale, qui est composée par Georges Féline en 1910, par exemple, le dernier couplet, il finit comme ça: Nous détruirons l'ordre bourgeois, honte à jamais des temps modernes, les églises et les casernes, le capitalisme et ses lois, et notre victoire finale délivrera l'humanité. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, on voit bien là, sur l'image qui accompagne la chanson, là, on n'est plus dans une représentation, enfin, on est dans une représentation, pardon, d'un peuple fier et conquérant, qui, justement, qui, par la grève générale, va conquérir de nouveaux droits et qui, même, arrivera jusqu'à la Révolution. Et on retrouve dans le vocabulaire employé toujours quand même cette idée de destruction. Et donc pour finir, pour aussi être dans un élément un peu plus concret, je me suis intéressée au mouvement des 8 heures pour le 1er mai 1906. De même, donc rapidement, l'histoire du 1er mai, le premier 1er mai, comme on pourrait dire, le 1er mai vient des États-Unis. Le premier 1er mai a lieu aux États-Unis en 1886. Et rapidement, l'idée, on va dire, traverse l'Atlantique. Et en 1889, ce sont notamment des députés socialistes qui, pareil, enfin, réfléchissent à l'idée d'une grande date. Alors, bien sûr, on ne parle pas encore de fête, mais qui serait une grande date pour de revendication, qui se traduirait par une sorte de procession, par exemple, au ministère où les travailleurs et les travailleuses iraient remettre leurs doléances. Donc, l'idée d'un 1er mai international, enfin, d'une journée de revendication est actée en 1889. Et le 1er mai 1890, alors que ça n'était pas prévu, dans de nombreux endroits, la grève survient. Et finalement, chaque année, enfin, comment dire, le 1er mai va très rapidement s'ancrer comme une tradition enfin, dans le prolétariat français. Et ça va être aussi un moment, un événement qui va donner lieu à une grande production imagière comme celle-ci, ou encore une fois, comme pour les représentations de la grève générale, on retombe, enfin, on revient à une image, donc, enfin, au jour et non plus à la nuit, et comment dire, à des. Donc là, c'est que des hommes, mais parfois il y a aussi des femmes et des vieillards, mais c'est vrai que c'est quand même souvent que des hommes, avec des professions. Donc là, on ne distingue peut-être pas très bien, mais c'est beaucoup des professions du bâtiment qui sont une profession, enfin, un syndicat connu à l'époque pour être révolutionnaire et qui ont fait de nombreuses grèves. Et voilà, donc prêt avec. Enfin, une sorte d'horizon d'attente qui est souvent marquée. Donc, pour en revenir au 1er mai 1906, donc en 1904, comme je vous le disais, la CGT est quand même assez bien constituée. Ça fait 2-3 ans qu'elle gagne pas mal en effectif. Et donc, au congrès de Bourges de septembre 1904, il est décidé de faire ce qu'ils appellent une campagne d'agitation et de propagande pour le 1er mai 1906, en espérant que, sous la menace de la grève générale, on obtienne la journée de 8 heures de travail. Et l'un des intérêts d'étudier cette campagne qui va monter crescendo, donc de septembre 1904 au 1er mai 1906, donc pendant à peu près 18 mois, c'est de voir comment. On a un double discours. Comment, en fait, à la fois, ce qu'on vise de façon assez lointaine, ça va bien sûr être la révolution, mais finalement, on va envisager cette revendication des 8 heures et par la grève générale comme une sorte de gymnastique révolutionnaire. La façon de mettre en pratique ce qu'on appelle à l'époque l'action directe. Je dis à l'époque puisque le sens en a été un. Enfin, je ne sais pas si on peut dire détourné, mais parce que maintenant on associe forcément la violence à l'expression, à l'idée d'action directe, alors que, enfin, en fait, non, l'action directe, c'est le fait de prendre en main ses affaires soi-même, comme le dit la phrase de l'International, et non pas en s'en remettant, par exemple, aux partis politiques. Et donc, pas forcément à la violence. Donc, là, deux exemples de. Donc, pardon, la Confédération générale du travail, qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui, tant, on va dire, idéologiquement, mais même numériquement, et qui surtout n'a pas beaucoup d'argent, va à la mesure de ses moyens. C'est assez intéressant de voir l'énergie, quand même, qui est déployée, et les ruses aussi qui vont parfois être trouvées. Donc, des brochures comme celle-ci sont tirées et distribuées à différents moments pendant les 18 mois. De nombreuses affiches. Donc là, j'ai pris des affiches, on va dire locales. Une affiche de la Bourse du Travail de Lyon et une de la Fédération des mineurs. Et un autre moyen aussi de propagande, c'est ce qui est repris sur la campagne qu'avaient fait les syndicalistes américains en 1886. C'est notamment ces petits papillons qui sont soit avec un slogan fort, soit construits sur une dichotomie de l'avant et de l'après. En gros, enfin, vous voyez vous-même. Et ces papillons, donc, qui seront distribués et tirés pareil à des centaines de milliers d'exemplaires. Donc là, c'est sur les feuilles des archives nationales, donc elles ont été rassemblées. Voilà, par exemple, dans La Voix du Peuple, on pouvait dire prenez les papillons, collez-les partout. Donc, si bien que on peut lire que ce soit dans la presse que je vais qualifier de bourgeoise ou sinon dans des mémoires. Par exemple, de Gaston Guiraud qui dit que voilà, il y en avait partout, sur les comptoirs des cafés, dans les trains, dans les urinoirs, sur les murs, voilà, partout, partout. Notamment à Paris et, comme il dit, en province. Donc voilà, donc, et bien sûr, un exemple, bien sûr, enfin je dis bien sûr, puisque c'est paraît évident à l'époque, des chansons, la chanson des 8 heures, la normale, ont été écrites. Pour l'occasion. Et enfin, donc à la revendication des 8 heures est accolée celle du repos hebdomadaire. Selon les confédérations, certaines mettront l'une ou l'autre en avant. Et je ne sais pas si vous voyez tout en haut, il y a écrit élection législative de mai 1906. Alors c'est une pratique syndicale qu'on retrouve encore parfois aujourd'hui. Alors pas pour les élections politiques, mais. En fait, la CGT, comme enfin, par une technique que je n'expliquerai pas dans le détail, mais en gros, profite des élections et de fonds qui lui sont alloués pour ça, pour produire des affiches, puisque bien sûr, la CGT, à l'époque, ne se mêle pas de politique, mais en profite pour faire des réunions et profiter de l'agitation. Et donc là, c'est le numéro de l'assiette au beurre, encore une fois confié à Jules Grandjean, qui est un dessinateur qu'on ne pourrait pas qualifier forcément d'anarchiste, mais qui est en tout cas qui a une grande sympathie pour ces idées-là et qui livre un très beau numéro donc à la veille du 1er mai. Donc voilà. Donc pendant ces 18 mois, la campagne. S'intensifie doucement, ça va crescendo. Beaucoup de syndicalistes font des réunions dans toute la France, etc. Quand on lit les archives de la préfecture de police, bien évidemment, et ou du ministère, mais les agents sont sur le coup, suivent ça, mais tranquillement. Disons que voilà, ça se prépare, il n'y a pas de risque majeur identifié selon eux. Sauf que, quelques semaines avant le 1er mai 1906, survient la catastrophe de Courrières. Je ne sais pas si également si vous en avez déjà entendu parler. Donc, dans le bassin minier, le 10 mars, alors que les mineurs viennent de descendre dans les fosses, une explosion a lieu qui fait immédiatement plus de 1000 morts. Donc, bien évidemment, enfin, le premier sentiment qui domine et qui est décrit à l'époque, c'est l'effroi, et très vite viendra la colère. C'est un événement qui, enfin, un événement, oui, un événement qui est assez intéressant aussi d'un point de vue d'analyse de la presse. Puisque on est donc dans une presse qui est tout à fait moderne, on commence à y avoir des photos dans les journaux, etc. Et en fait, beaucoup de journaux, en tout cas, envoient des correspondants sur place et ils font le récit heure par heure des opérations de sauvetage des mineurs. Opérations qui ne donneront pas grand-chose. Sauf que, alors que les opérations de sauvetage sont arrêtées, 2 semaines après, une quinzaine de, peut-être un peu, enfin, en tout cas une dizaine de mineurs ressortent par eux-mêmes de la fosse. Et alors, Déjà que la tension, enfin la colère était quand même à son comble et que bien sûr beaucoup de mineurs avaient refusé de retourner dans la fosse. Là, c'est, on va dire, c'est la goutte d'eau puisque voilà, on accuse à raison la compagnie de ne pas avoir fait ce qu'il fallait d'une part avant l'explosion et ensuite ensuite pour les recherches, ce qui fait que alors que déjà, il y a une certaine, on va dire, agitation dans le pays, liée ou non à la préparation de ce 1er mai, que beaucoup dans les ports, hein, à Brest, à Toulon, etc., comment dire, un vrai mouvement d'agitation, de nombreuses. La presse parle d'échauffourées, mais il y a en tout cas une tension sociale qui est très forte à ce moment-là, et des conflits aussi entre nouveaux militants et vieux, et ce qu'on appelle là-bas le vieux syndicat, qui serait plutôt, les mineurs ont une tradition de syndicalisme réformiste où ils comptent vraiment sur l'État pour les améliorer leur statut. Et voilà, donc, enfin, là, l'exemple d'une grève à Lens assez massive. Et voilà, donc bien évidemment, là, pour le gouvernement, les voyants sont au rouge. Et on envoie l'armée dans tout le bassin minier. Et juste, enfin, j'y reviendrai 2 minutes après, mais là, donc c'est à l'occasion, donc toujours de ce 20 mars, à l'occasion de la grève, il y a un personnage qui est important, qui s'appelle Benoît Broutchou, qui a fait plein de métiers avant, mais qui maintenant est mineur, et qui fait partie de ce qu'on a appelé donc le jeune syndicat, qui est un syndicat qui s'affilie à la CGT et donc qui est contre les pratiques réformistes du vieux syndicat. Donc à peu près, enfin juste après la révolution, pardon, juste après la catastrophe de Courrières, à la campagne de propagande et d'agitation de la Confédération générale du travail, répond une campagne d'affolement de la presse conservatrice. Alors bien évidemment, ce n'est pas toute la presse. C'est principalement l'Écho de Paris et le journal Le Gaulois. Et donc, je ne sais pas si vous voyez là à l'écran, à partir de la fin mars, l'Écho de Paris va publier ce qu'il présente comme une enquête richement documentée qui s'appelle La Révolution qui vient. Et en fait, chaque jour, ou presque, jusqu'à la veille du 1er mai, vous avez en première page, donc que ce soit vraiment en une, soit dans la quatrième ou cinquième colonne, toujours ce titre, ce surtitre, La Révolution qui vient, et où on vous explique par le menu comment les gréviculteurs de la CGT, ces apôtres du chambardement général, préparent la révolution pour le 1er mai, comment la CGT va mettre Paris à feu et à sang pour le 1er mai. Alors, je vais pas gâcher l'intrigue, mais juste pour dire que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que même si bien sûr on peut imaginer qu'ils n'ont pas une grande affection pour la CGT, cette campagne d'affolement contre la CGT vise en réalité le pouvoir, notamment Clémenceau, enfin en gros les radicaux qui sont au pouvoir, les radicaux du Parti radical. Que eux classent plutôt à gauche. Et donc cette campagne vise à montrer en fait que les meilleurs amis de la CGT sont au pouvoir et qu'ils mènent la France à sa perte. Et parce que les élections législatives ont lieu 2 semaines après le 1er mai. Donc voilà, donc rapidement d'autres exemples de une de l'Écho de Paris. On voit dans les archives de police que certains agents même se laissent, on va dire, un peu avoir par la rumeur, puisqu'il dit de plusieurs côtés, le bruit court que le 1er mai sera d'une violence inouïe et que le sang coulera. Donc voilà, il y a des notes comme ça que l'on retrouve. Et quand même, même si c'est assez localisé sur Paris, c'est assez drôle à lire, aussi, c'est que ça crée quand même un mouvement de panique, toute cette intimité, enfin, cet affolement. Et donc voilà, donc on a dans les journaux des photos de Parisiens qui font la queue pour faire des provisions. Paraît-il qu'on aurait mis une vache dans un appartement, que l'autre aurait transformé sa baignoire en vivier, etc. Et que paraît-il que les demandes de location de coffre-fort afflueraient, enfin voilà, plein d'exemples comme ça. Et finalement, comment dire, bien évidemment, les pouvoirs publics ne vont pas laisser quand même cette panique prendre trop longtemps et décident à la fin du mois d'avril, en fait, de transformer ce qu'on a appelé Paris en état de petit siège et d'envoyer un peu plus de 30 000 hommes de troupes dans Paris. Donc, voilà. Donc je finis très rapidement. Juste là, c'est une note donc de Louis Lépine, qui est préfet de police à cette époque-là, à Georges Clemenceau, qui est ministre de l'Intérieur, qui sera très bientôt, juste après, président du Conseil, et lui dit, donc ça c'est le 4 avril, « Vous avez bien voulu me prier de faire rechercher si les partis d'opposition n'avaient pas essayé de gagner certains concours dans les bourses du travail, dans les milieux libertaires. Les enquêtes faites dans ce but n'ont rien donné. » Pour autant, Clémenceau, selon les meilleures traditions policières, qu'il réutilisera ensuite par la suite, notamment contre la CGT, dans les 2-3 années après, va inventer l'histoire d'un complot entre des monarchistes et des hommes de la Confédération du Travail, ce qui va permettre de les mettre sous les verrous à la veille du 1er mai. Et enfin voilà, il essaie de. Il tente de faire diversion et bien évidemment, le dossier sera vide et une dizaine de jours après, tout ça retombe un petit peu comme un soufflet. Et voilà. Et donc pour finir, quelques images de Paris, et, enfin pas que, mais là c'est Paris transformé donc en état de petit siège où c'est aussi l'occasion de tester de nouvelles pratiques de maintien de l'ordre puisque... bien évidemment, à l'époque, le droit de manifester n'existe pas. Le maintien de l'ordre, le maintien de la rue, c'est le maintien de l'ordre social. Bon, ça, c'est toujours d'actualité, mais voilà, il était annoncé qu'il serait interdit de chanter, de se rassembler, d'arborer un drapeau. Quel qu'il soit, rouge, noir ou drapeau tricolore. Et ce qui est assez drôle, c'est que pour, par exemple, le Petit Journal, donc une dizaine de jours après, en fait, alors il y a eu des violences, il y a bien eu, comme on le voit là, cet omnibus renversé. Pour autant, il y a, enfin, voilà, c'est une envie, toujours un peu cette idée de sensationnalisme et de dramatisation chère à la presse de la Belle Époque. Et pour conclure, j'avais donc en deux points. D'une part, donc le mouvement du 1er mai 1906, c'est un échec, malheureusement. Enfin, il faut, on va dire, on ne veut pas se leurrer. Il y a un peu plus de 200 000 grévistes jusqu'à la moitié du mois de mai, et après le mouvement s'essouffle. Et aucune corporation n'obtiendra la journée de 8 heures, certains la journée de 9 heures. Ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale que la journée de 8 heures sera... Non, je dis une bêtise, enfin, pardon. En tout cas, il y a la loi sur le repos hebdomadaire qui est votée en juillet 1906, mais on ne peut pas forcément le mettre au crédit de ce mouvement. Et si les années... jusqu'à la Première Guerre mondiale, sont encore une fois assez, assez riches en événements sociaux. Comment dire, la foi en l'efficacité de la grève générale, enfin, le désir de révolution est toujours là, mais la stratégie grève généraliste est de plus en plus remise en cause. Et par ailleurs aussi, un certain romantisme révolutionnaire qu'il y avait dans les textes. Et on essaye aussi un peu de se dégager parfois de cette image de grand soir. Et donc là, j'ai mis deux représentations qui sont assez opposées. Celle-là, donc, de Adolphe Villette, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a fait beaucoup de dessins pour la presse anarchiste, qui l'a publié dans Le Rire le lendemain du grand soir, où on peut lire en légende. En gros, enfin, je sais plus ce qu'il dit, mais en gros, avant j'étais électricien, donc en gros, avant le grand soir, j'avais un métier et tout allait bien, et puis bah, là, il se retrouve sans rien. Et là, ça c'est plus pour prolonger peut-être dans la discussion si ça vous intéresse, sur l'idée qu'on se fait du grand soir après au XXe siècle et comment elle peut être associée surtout au communisme. Et donc là, c'est une affiche. De propagande, donc centre de propagande des Républicains nationaux, qu'on classera à droite. Et enfin, épilogue, on a reproduit dans le livre ce numéro, enfin intégralement ce numéro de l'assiette au beurre, qui est assez, encore une fois, intéressant, puisque donc on est en 1910. Et voilà, c'est le propos est assez grave. En même temps, c'est avec un dessinateur de la presse jeunesse, et c'est vraiment une vision syndicaliste du Grand Soir et de la réorganisation de la production, et où on met en fait en œuvre les principes fondamentaux, on va dire, de la grève générale avec les électriciens, les chemins de fer. Voilà, toutes les corporations qui entrent dans la danse pour la grève générale. On ne décapite plus, mais on décapitalise. On fraternise avec les soldats qui sont envoyés. Et surtout, donc ça, c'est la dernière page, on finit dans un moment de communion et d'harmonie sociale.